Mettre fin à l'exploitation animale pour mettre fin à l'exploitation générale. Libre Radio, la radio des morsures qui change le lait en beau. www.libradio.org.
Continuer à participer de façon militante ou professionnelle dans des projets agricoles. Et en fait, la raison qui nous a donné envie d'écrire cette lettre, c'est que en fait, en travaillant avec des gens dans des projets d'agriculture à petite échelle ou comme ça, avec des gens militantes, on a été frappé par la présence récurrente de l'exploitation animale, le plus souvent à travers l'élevage, dans ce contexte-là. Et du coup, on voulait utiliser les connaissances qu'on avait pour remettre en question en fait cette grande présence de l'exploitation animale dans les projets agricoles, en particulier les petits. Et du coup, la présentation de cet après-midi, on voulait l'axer sur plusieurs de la façon suivante. On va d'abord parler des buts du texte, les buts premiers du texte. Ensuite, un peu survoler la méthodologie, comment on a écrit ce texte, quelques spécificités qu'il peut y avoir. Et ensuite, on pense faire un petit survol des principaux thèmes qu'on aborde dans le texte. Et avec quelques citations, des fois, de temps en temps. Et on va finir par un peu parler de l'état actuel du texte et du futur de ce texte. Et par une petite discussion, des questions si les gens ont envie de parler ou comme ça. Ouais, alors c'est vrai que demain il y a une discussion à ce sujet-là où il y aura deux personnes qui pratiquent l'agriculture dans des projets où en fait on remet en question l'exploitation animale. Et du coup on va parler autour de ça, mais c'est pas direct, enfin c'est lié thématiquement, mais c'est pas des personnes qui ont travaillé sur ce projet de texte, etc.
Donc maintenant moi je vais un peu enchaîner en parlant un peu de nos buts, un peu nos perspectives qu'on avait en écrivant ce texte. Et un peu le point de départ, un peu notre base un peu théorique des trois personnes qui écrivent ce texte. Du coup, je précise la troisième personne, c'est une camarade qui habite maintenant aux États-Unis, du coup elle ne peut pas venir, mais on est trois un peu à réfléchir un peu comment on présente le texte aussi. Et du coup, c'est la volonté de base, un peu, c'est de partir de nos convictions politiques anti-autoritaires et de remise en question de domination en général et l'appliquer à un domaine qui nous est proche, c'est-à-dire l'agriculture. Et donc, le fait de remettre en question les dominations, ça nous amène à remettre en question l'exploitation animale. Et donc, dans ce cas-là, le thème de ce livre, c'est de remettre en question l'élevage. Du coup, plus concrètement, on avait un peu deux principales ambitions en écrivant ce livre. L'une, c'est un peu de diffuser des idées, des connaissances qui sont peu visibles, surtout à propos de justement qui permettent de montrer en fait que c'est possible de subsister en faisant l'agriculture sans faire d'élevage. Et la deuxième un peu ambition qu'on avait, c'était de démonter des mythes très répandus qui sont en fait souvent apportés avec de mauvais arguments de manière à notamment justifier l'élevage. Et du coup, notre deuxième un peu perspective, c'était de contrer un peu des mythes très répandus un peu dans l'imaginaire collectif qui, avec de mauvais arguments, essaye de montrer qu'on ne peut pas faire d'agriculture sans élevage. Un peu dans cette lignée de comment, en fait, nos buts en écrivant ce texte, c'est un peu pour qui on écrivait ce texte. Du coup, principalement, on a écrit ce texte un peu pour des gens qui nous sont proches, des camarades avec qui on peut partager des paysans, paysannes qui partagent un peu la même réalité que nous. Avec qui on peut partager des projets, aussi des luttes concernant l'agriculture, mais aussi avec qui on peut être des fois en opposition frontale, notamment sur la question de l'exploitation animale. Et un peu, par extension, une chose qui était importante aussi pour nous, c'était de rendre clair en fait que ce texte n'est pas une... en fait, on trouve que souvent dans les discours antispécistes, il y a une tendance un peu à avoir des dérives néocoloniales et racistes qui, en tant qu'occidental, par exemple, va faire la morale à un petit paysan d'Amérique du Sud. Et du coup, ce texte, il est pas a priori écrit pour des gens qui vivent des réalités totalement différentes des nôtres. Mais ça n'empêche pas que n'importe qui peut se réapproprier des idées contenues dans ce texte et les utiliser dans le contexte qui leur est propre et selon leurs besoins. Ensuite, pour parler un peu de la méthode qu'on a utilisé pour écrire ce texte, je pense qu'il y a un peu deux choses qui ressortent particulièrement. La première, c'est que c'est quand même un texte qui a un a priori politique très clair, genre c'est un texte antispéciste. C'est un peu un point de départ pour nous. Et le deuxième, c'est que c'est un peu une volonté de nous de faire un texte de vulgarisation scientifique. C'est-à-dire que, un peu, cette méthodologie scientifique, c'est qu'on n'invente pas des choses juste sans avoir un peu une... En fait, on source toutes les informations qu'on donne. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'elles soient justes, mais ce qui veut dire que les personnes peuvent aller les vérifier et peuvent aller approfondir les choses qu'on écrit dans le texte. Et du coup, il y a une bibliographie à la fin du texte qui est assez grande. Et on a aussi un lexique qui permet, qu'on a essayé de lister la plupart des mots un peu compliqués ou bien scientifiques qui sont utilisés dans le texte. Un peu dans l'idée que souvent, les savoirs scientifiques, c'est un peu un truc réservé aux élites et que, en fait, c'est aussi important que ça puisse être plus accessible.
Et du coup, le premier chapitre vraiment qui touche au sujet du livre, c'est un chapitre sur la fertilité des sols et les cycles des nutriments. Et donc, c'est un chapitre assez théorique, mais qui était important pour nous, pour poser certaines bases d'écologie et où du coup on des bases qu'on va reprendre au fil du texte et justement pour pas que la suite du texte soit incompréhensible pour des personnes qui n'ont pas le même bagage que nous. Et du coup, ce chapitre, il commence par parler des besoins de base des plantes et surtout de leurs besoins en nutriments. Et dans ce contexte-là, on prend les trois nutriments qui sont les plus limitants pour la croissance des plantes dans nos régions, c'est-à-dire l'azote, le phosphore et le potassium. Et on décrit en fait potassium et phosphore. Et du coup, on présente aussi la façon dont ces éléments sont présents dans les écosystèmes et où les plantes les trouvent. Et on finit ce chapitre en démontrant aussi la grande utilité des micro-organismes pour la fertilité des sols. Et leur aspect central dans ces écosystèmes, l'absence d'écosystèmes naturels qui dépendent de grands mammifères pour leur fertilité.
Voilà, du coup, après ce chapitre très théorique, on a un chapitre un peu qui est un peu la base de notre argument dans le texte. Le chapitre s'appelle « L'élevage n'est pas nécessaire à l'agriculture ». Ça, on l'aborde sur plusieurs points. Et le premier point, ça traite de la sous-efficience de la production animale. Et en parlant d'efficience, je peux définir rapidement, en fait, nous, comme on a utilisé ce terme. En fait, l'efficience, c'est l'optimisation de l'utilisation des ressources pour produire quelque chose. Par exemple, c'est le nombre de litres d'eau nécessaire pour produire un kilogramme de protéines végétales.
Bien.
Sous-efficience de la production animale. Et du coup, si on analyse un peu la production animale sous l'angle de l'efficience, on voit que en fait, c'est très très clair à quel point la production animale est très peu efficiente en comparaison à la production végétale. Du coup, un petit fait qui en dit beaucoup et qui est assez connu, c'est qu'il faudrait moins de la moitié des plantes consommées par les animaux d'élevage aujourd'hui permettrait de nourrir l'humanité entière. Et dans cette idée, là j'ai une petite citation du texte. Alors, en raison de l'inefficacité de la conversion des nutriments des plantes vers la chair animale, un porc devra par exemple manger près de 10 kg de protéines végétales pour pouvoir accumuler seulement 1 kg de protéines dans ses muscles. La consommation d'animaux eux-mêmes nourris de végétaux ou de leur sécrétion, œufs, lait, est pour les humains humaines une forme d'alimentation indirecte. Et cette extension superficielle de la chaîne alimentaire est bien une manière des plus efficaces de gaspiller la nourriture. C'est ce qui explique aussi qu'un hectare et demi de terre fertile peut très largement nourrir intégralement plus de 8 personnes végétaliennes, alors qu'il suffit à peine pour le fourrage annuel d'une seule vache nourrie à l'herbe. Et du coup, le deuxième point un peu de ce chapitre qui montre à quel point l'élevage est nécessaire à l'agriculture, c'est au niveau le lien entre l'élevage et la fertilisation des sols. Là, on arrive à un premier mythe qui est très répandu, c'est que les animaux seraient des sortes de sources de nutriments utiles aux plantes, une source primaire. En fait, que ce soit une sorte, c'est presque une... on ne saurait pas trop d'où ça vient, mais dans le caca des vaches et des animaux d'élevage, il y aurait des choses qu'on ne retrouverait nulle part ailleurs. Ou bien en qualité ou en quantité. Et en fait, dans les faits, ce n'est pas du tout vérifié. Et alors, en comparant des chances comparables, par exemple en comparant des composts de déjection animale, par exemple du fumier, avec des composts végétaux, c'est avéré qu'en fait les composts issus d'animaux ne sont pas plus riches que les composts végétaux et dans certains cas le sont moins, ou bien sont moins bien assimilés par les plantes. Et d'un second plan, la production d'engrais issus des animaux engendre beaucoup plus de pertes de nutriments comparées à la production d'engrais compostés issus de végétaux. Et ces pertes de nutriments, c'est une perte de fertilité, mais c'est aussi des sources de pollution dont je vais parler dans la suite. Là, j'ai encore une petite citation. Ça va, les citations ? Bon, ok. Alors, pour finir, s'il y a bien une chose à retenir dans ce qui vient d'être dit, c'est que ce sont les plantes et les micro-organismes qui produisent tout ce qui est nécessaire à la vie sur la planète. Que c'est d'aller eux que proviennent toute l'énergie et les nutriments dont les animaux ont besoin pour vivre. Ce sont les animaux d'élevage qui dépendent des végétaux et pas l'inverse. Les plantes et les écosystèmes n'ont jamais eu besoin des animaux d'élevage ou des grands herbivores en général pour s'épanouir. Et d'ailleurs, ces premières, les plantes, ne les ont pas attendues pour exister. Une fois qu'on a compris ça, il serait absurde de prétendre que l'agriculture ne peut exister sans élevage. Du coup, le dernier point de ce chapitre, ça parle justement de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, des nuisances causées par l'élevage. Et bon, c'est quelque chose de très très connu pour l'élevage industriel. L'élevage industriel, c'est une des plus grandes sources de nuisances qui détruisent l'écosystème actuellement. Ça, c'est très bien documenté. Mais en fait, toute proportion gardée, les nuisances issues de l'élevage industriel sont aussi présentes dans l'élevage artisanal. Et en fait, sont présentes de manière intrinsèque, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas. C'est pas parce que c'est mal fait que ces nuisances sont là, c'est intrinsèque à l'élevage. Et là, je vais pas rentrer plus dans le détail, mais je vais survoler rapidement un peu une liste de nuisances qui est en fait assez bien documentée. Mais en vrai, la production animale comparée à la production végétale a besoin de beaucoup plus de surface cultivée, du coup, beaucoup, une déforestation accrue, beaucoup plus de besoin de ressources en eau potable, pour produire des 1 kg de protéines animales, par exemple, par rapport à la protéine végétale. L'élevage, c'est aussi une émission de gaz polluants, notamment des gaz à effet de serre, qui sont issus surtout des gages de digestion des ruminants, des herbivores, et aussi des gaz qui créent des pluies acides. L'élevage est aussi une source très très importante de désertification et d'érosion des sols, qui est même à des échelles très artisanales, en fait, des troupeaux qui broutent dans des régions fragiles. Le simple fait de brouter de l'herbe ou le piétinement de troupeaux peut rendre désertifier des régions entières. Et au final, l'élevage non artisanal est très impliqué dans la pollution des eaux douces et des eaux côtières, c'est-à-dire des eaux marines proches des terres. Et ça, du coup, c'est aussi présent dans la production végétale, mais la plupart du temps de manière bien inférieure ou bien de manière évitable.
Ensuite, le chapitre d'après est intitulé « En finir avec l'attraction animale ». Et du coup, ça parle de l'utilisation des animaux, non pas comme nourriture ou comme engrais, mais comme aide au travail de la terre. Et ce chapitre, il commence par le postulat que même si on parle de compagnonnage et qu'on a parfois des degrés d'affinité qui peuvent être grands avec les animaux de trait, il reste que son travail est un travail qu'il n'a pas le choix de faire, parce que c'est tout le temps son maître qui aura le dernier mot sur quand ce travail est fourni, comment il est fourni, et qu'il y a des impératifs qu'il doit respecter, et que du coup on refuse cette appellation de compagnonnage. Et du coup, on continue le chapitre en remettant en cause le travail du sol, qui est une des utilisations primaires des animaux comme auxiliaire à l'élevage, à l'agriculture. Et du coup, on parle en fait d'alternatives qui sont possibles à ce travail du sol, et en particulier au labour. Et du coup, alors on met en évidence d'abord les conséquences graves du labour sur le sol, en tout cas du labour à long terme. Et on nuance néanmoins l'usage du labour et le travail du sol, qui peut, dans certains contextes, être utile et justifiable. Mais on présente aussi quelques techniques alternatives à ce labour. Et on finit ce paragraphe. Tout le monde sait ce que c'est que le labour. En gros, le labour, c'est le fait de retourner les 33 premiers centimètres, parfois moins, maintenant c'est souvent plutôt 15 premiers centimètres du sol, afin d'éviter les repousses culturales, d'aérer le sol, de l'amollir, et de lutter surtout contre les plantes dites adventices, c'est-à-dire ce qu'on dit entre guillemets mauvaises herbes. Plus on arrive à faire pousser des végétaux de manière satisfaisante en développant des techniques ne nécessitant pas un travail lourd sur le sol, plus il est probable qu'on arrive à s'assurer une autosubsistance alimentaire qui réussit à maintenir durablement la fertilité des sols, à réduire nos besoins énergétiques et notre recours à l'exploitation des animaux et à la motorisation. Et le deuxième axe de ce chapitre, c'est l'utilisation de la force humaine. Donc, l'utilisation d'animaux ou de tracteurs, c'est une minorité en fait dans le monde paysan à l'échelle planétaire. Il faut savoir que en fait, près de 80% des paysannes et paysans n'ont pas les moyens ou pas la possibilité d'avoir des animaux de trait, ou encore moins la motorisation. Donc animaux de trait, c'est 20% de la paysannerie, et motorisation, c'est 2% du monde paysan. Et on admet que ces travaux à l'énergie humaine, c'est des travaux d'une grande pénibilité. C'est-à-dire que c'est des travaux qui... Oui. Alors, on admet en prémisse de ce chapitre que ce sont des travaux d'une grande pénibilité. Et du coup, qui sont durs pour le corps, qui sont très fatigants. Et de ce postulat-là, on explore quelques techniques, notamment d'attelage humain léger, et du coup de l'utilisation de ces attelages légers pour un travail du sol en surface, pour le désherbage, le semis. Et on finit ce chapitre par parler de la motorisation, qui, comme beaucoup de technologies, peut être assez critiquable pour les dépendances qu'elle entraîne. Du coup, là, je vais vous faire une petite citation. Maintenant, quand on réfléchit à la place concrète que l'on aimerait aménager aux outils motorisés dans nos pratiques agricoles, on se rend rapidement compte de deux choses. C'est une technologie à la disposition d'une minorité privilégiée et, en tant qu'élément actuellement indispensable à l'agriculture industrielle, elle fait dans la majorité des cas plus partie du problème que de la solution. Au-delà de ce constat sans appel, une forme de motorisation comme outil d'autonomie est-elle envisageable? Et à cette question du fait d'envisager l'utilisation d'outils agricoles, de motorisation des outils agricoles, on pense que oui, il serait possible et souhaitable de se réapproprier ces outils tout en gardant un esprit très critique et en l'utilisant en fait pour les choses qui sont vraiment le plus nécessaire possible. Et on met aussi quelques pistes, notamment pour la collectivisation d'outils agricoles motorisés et en fait l'utilisation de machines allégées en faveur des sols et simplifiées pour gagner en autonomie. Ouais, et notamment des bases d'autoconstruction d'outils agricoles motorisés. Ensuite, le chapitre suivant s'intitule « Les animaux ne sont pas nécessaires à notre alimentation ». Et là, on touche à un autre grand mythe concernant l'élevage, c'est que les animaux seraient indispensables à notre alimentation humaine. Et pourtant, quand on se penche sur la question, on remarque assez vite qu'aucun nutriment essentiel à notre fonctionnement ne se trouve pas en quantité suffisante dans des végétaux, des micro-organismes ou produits par notre propre organisme. Ce chapitre, c'est pas un traité exhaustif de la question, mais en fait, il existe des ouvrages bien mieux écrits et bien mieux documentés que le nôtre. Mais on pensait important de faire au moins un résumé des nutriments essentiels et de où les trouver dans l'alimentation. On parle d'abord des macronutriments, des glucides, lipides et protéines. Et on s'aperçoit vite qu'ils sont tous disponibles dans une alimentation végétale équilibrée. Ensuite, on s'attaque aux micronutriments, c'est-à-dire les minéraux et les vitamines. Et on remarque qu'ils sont tous présents en quantité suffisante dans des produits végétaux, à l'exception de la vitamine B12, qui, elle, est produite par des micro-organismes dont tous les animaux dépendent. Et il y a un passage qui parle de ce sujet-là. Donc, les animaux herbivores ont accès à la vitamine B12 produite par les bactéries de leur tube digestif, soit en ruminant, soit en mangeant leurs excréments. Comme les humains ne peuvent pas l'un et ne font souvent pas l'autre, les possibilités d'avoir de la B12 est soit de manger d'autres animaux herbivores ou mangeurs d'herbivores, ce qu'on va s'abstenir de faire, soit d'aller chercher directement la B12 là où elle est, chez les bactéries. La production des suppléments alimentaires de B12 se fait à partir de différentes espèces de bactéries du genre Propionibacterium, et peut s'apparenter au brassage de la bière avec des levures, c'est-à-dire une fermentation en milieu liquide. Et du coup, on finit ce chapitre en soulignant qu'une alimentation végétale variée est nécessaire à une diète végétalienne équilibrée. Et on remarque que cette diversité végétale est aussi bénéfique aux milieux agricoles qui sont trop souvent dominés par quelques espèces végétales. Et un plus grand mélange profite beaucoup aux écosystèmes agricoles.
Alors maintenant, je vais aborder l'avant-dernier chapitre du livre. Et c'est un peu... C'est un peu le chapitre, un peu, je pense, qui nous a pris plus de temps à écrire parce que c'est assez délicat à bien analyser et c'est peut-être un peu polémique. Mais c'est un chapitre qui traite des terres marginales, souvent présentées comme l'ultime refuge pour l'élevage. Et en fait, les terres marginales, c'est un terme pas très courant, mais avec, en fait, par terre marginale, on entend la chose suivante. C'est toutes les régions où c'est difficile de faire de l'agriculture. Alors typiquement les zones arides, désertiques, les zones très froides ou les régions de montagne. Et dans le cas où je dis que c'est un peu polémique, c'est que après nous on a pris qu'un exemple en fait qui nous concerne et qui est assez proche de nous, c'est l'exemple des Alpes. C'est là où c'est un peu polémique parce qu'en fait c'est beaucoup de gens qui ont leur avis très tranché là-dessus sur l'élevage dans les Alpes, que c'est le seul endroit où encore ça peut être faire du sens de faire de l'élevage. Et du coup, un peu pour contrer un peu cet argument, nous on a un peu abordé la question sous deux angles. Le premier angle, c'est une critique écologique de l'utilisation de l'exemple des terres marginales pour justifier l'élevage. Et le deuxième, ce serait une critique sociale. La première angle d'analyse un peu de la question des Alpes, c'est une critique écologique de l'utilisation de l'exemple des terres marginales pour justifier l'élevage. Et du coup, un peu pour comprendre un peu ce qui se passe dans les Alpes, c'est que les Alpes, c'est une zone de montagne qui traverse toute l'Europe, dans laquelle c'est un des derniers endroits en Europe où il y a l'élevage non industriel qui domine. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer très, très rapidement depuis quelques décennies, dans la mesure où, en fait, comme c'est des zones très peu productives, la plupart des élevages de montagne ne sont pas du tout rentables dans le système capitaliste. Ce qui nous pose un peu devant un exemple intéressant, c'est-à-dire que les élevages qui restent, en tout cas en France et en Suisse, c'est les cas que je connais, sont dépendants pour la majeure partie de leurs ressources, voire 100% de leurs ressources de subventions étatiques. Donc en vrai, c'est une question politique de maintenir l'élevage de montagne parce que c'est quelque chose de bien en soi. Et pour rester du coup sous le point de vue écologique, l'exode rural, c'est-à-dire la déprise agricole dans les Alpes, c'est-à-dire la diminution de l'élevage dans les Alpes, c'est présenté souvent comme une catastrophe écologique. Parce que, en fait, quand l'élevage baisse dans les Alpes, c'est les pâturages de montagne sont remplacés par la forêt. Et ça, c'est souvent présenté comme une catastrophe écologique parce qu'en fait, il y aurait moins de diversité, ce qui est vrai. Mais dans le livre, on montre à quel point, en fait, c'est une vision hyper simpliste de la question. Et en fait, le retour de la forêt dans les Alpes, c'est très loin d'être une catastrophe écologique. Et le deuxième point un peu de la critique écologique de la question des Alpes, et qui va faire le lien avec la critique sociale, c'est qu'en fait, souvent c'est présenté comme une fatalité. Dans les Alpes, c'est soit l'élevage, soit les gens doivent quitter les montagnes et aller dans les villes. Et en fait, c'est pas du tout vrai. Et dans les Alpes, en fait, depuis à peu près 2000 ans, voire 3000 ans, où il y a des populations qui vivent dans les Alpes, la majorité du temps, en fait, c'était pas les personnes ne survivaient pas grâce à l'élevage, mais survivaient en majorité grâce aux cultures végétales. Là, je fais une citation. Il est fondamental de voir que la plupart du temps, le choix ne se résume pas à deux seules possibilités, entre pâturage d'un côté et forêt de l'autre. Il existe de nombreuses terres où c'est traditionnellement l'élevage qui se fait, mais où il est tout à fait envisageable de mener des cultures végétales, textiles, médicinales ou vivrières adaptées au climat. Comme par exemple le sarrasin, les pommes de terre, le chanvre, le lin, ou encore le seigle qui dans les Alpes peut pousser jusqu'à plus de 2000 mètres. D'ailleurs, comme on le reverra par la suite, la subsistance et l'autonomie de la plupart des paysans et paysannes des montagnes par le passé reposaient essentiellement sur des cultures vivrières végétales, et ce parfois jusqu'à l'aube du XXe siècle. Et du coup maintenant, un peu notre... le volet un peu critique de notre analyse de la situation dans les Alpes, on commence par le fait que oui, les Alpes et beaucoup de régions de montagne sont des zones de repli et de résistance pour des populations marginalisées ou en lutte, mais que en fait c'est lié à un contexte historique et politique qu'il faut bien comprendre pour ne pas faire une analyse simpliste de la question. Et pour pas, souvent, une chose qui, comme moi, je vois souvent, c'est qu'en fait, l'exemple des Alpes, ou bien des montagnes, comme zone de résistance et d'autonomie, qui notamment utilise l'élevage, est utilisé de manière un peu romantisée, et juste, je trouve, un peu hypocrite dans le but de justifier l'élevage. Et là, j'ai une citation sur un peu l'histoire en fait, de l'élevage dans les Alpes. Historiquement, le développement large de l'élevage dans de nombreuses régions d'Europe qui pratiquaient des cultures végétales pauvres mais vivrières, ne s'est souvent pas fait pour mieux nourrir les populations paysannes, mais pour répondre à des pressions économiques. En effet, à partir du XVIIe et XVIIIe siècle, le capitalisme naissant remonte les vallées alpines et s'attaque aux formes d'autonomie paysanne alors en pratique. L'agriculture, essentiellement de subsistance basée sur des cultures vivrières végétales, seigle, sarrasin, pommes de terre, etc., s'efface progressivement au bénéfice de productions destinées aux villes, comme les produits laitiers, avec tout d'abord le fromage, puis plus tard la viande. Ces produits, considérés comme des marchandises à haute valeur ajoutée, se sont avant tout développés massivement pour servir de produits d'exportation vers les classes aisées des centres urbains en expansion. Et du coup, pour finir avec ce chapitre, je pense que c'est vraiment important quand on parle justement de régions comme les Alpes, de voir un peu... Je pense qu'il ne faut pas nier ce rôle en fait, de résistance et de repli que sont les montagnes. Mais il faut l'analyser avec nuance et en fait voir aussi que les gens qui survivent dans les montagnes, notamment en faisant de l'élevage, oui, ça peut leur permettre tactiquement des possibilités de résistance et de lutte. Et du coup, c'est un truc pas à nier, mais il ne faut pas voir en fait que c'est pas quelque chose qui historiquement, c'est une sorte de... C'est des gens qui sont repoussés à la marge quand même. Et en fait, je pense que c'est vraiment important d'avoir un peu aussi une perspective, je ne sais pas, peut-être c'est un gros mot, mais une perspective révolutionnaire dans le sens où en fait, en regardant l'exemple des Alpes, il faut voir à quel point c'est important de reconnaître nos capacités de résistance, mais de pas se contenter de la marge, c'est-à-dire de pas se complaire dans ce qu'on nous laisse, et qu'en fait, au final, oui, peut-être à un certain moment donné, il y a des gens qui survivent dans des zones de montagne, dans des zones d'élevage, mais en fait, ce qui est important au final, ce sera de reprendre les plaines fertiles qui sont accaparées et de partager en fait l'ensemble des territoires et pas juste les zones les plus difficiles. Que ce soit disponible à tout le monde, pas aux classes aisées. Du coup, là, on arrive au dernier chapitre du livre, qui est un peu le seul chapitre qui est vraiment uniquement pratique. Et ce chapitre, il traite justement des pratiques agricoles sans exploitation animale. Et du coup, comme Bogdan l'a dit un peu à propos de l'alimentation, je pense que c'est un sujet qui est très, très, très vaste et que on ne peut pas traiter en un chapitre. Je pense que chaque pratique agricole qu'on va survoler ici pourrait être le contenu d'un livre complet. C'est pour ça que nous, on a fait une sélection de choses qu'on trouve intéressantes et on a fait pas mal de liens vers une bibliographie pour des personnes qui ont envie d'approfondir. Du coup, l'ensemble des pratiques et techniques qu'on a un peu évoquées dans ce chapitre, on les a sélectionnées parce que c'était des choses qui permettaient de pratiquer l'agriculture sans devoir exploiter les animaux et d'atteindre une autonomie en tant que paysan ou paysanne. Et on a du coup commencé par un peu présenter brièvement trois systèmes de production agricole qu'on trouvait intéressants. Alors rapidement, l'agriculture sans élevage, qui est vraiment une pratique, un système de production qui se pose politiquement la volonté de ne pas exploiter des animaux ou de ne pas utiliser leurs produits pour produire ce dont on a besoin pour notre survie en végétaux. Et qui est en fait issue des années 70, mais en train de se développer surtout dans les pays anglo-saxons. La deuxième système de production agricole qui est intéressant, qui est souvent, beaucoup de gens ont entendu parler, mais qui est assez mal compris, c'est la permaculture. La permaculture, c'est un peu une contraction entre agriculture et permanence. Et en gros, l'idée de base, c'est d'obtenir une agriculture avec le moins qui essaie de boucler les cycles des nutriments et de la matière et de ne pas dépendre d'apports extérieurs. Ce qui est très intéressant, notamment quand on veut, par exemple, faire un jardin et pas dépendre du fumier d'une exploitation agricole qu'on doit apporter dans notre jardin. Le troisième système de production agricole qui est utile d'évoquer, c'est l'agroécologie. Et l'agroécologie, c'est une science, à la fois une science naissante et un mouvement social qui, en fait, essaie d'allier l'agronomie, c'est-à-dire la science de l'agriculture, avec des notions d'écologie et d'écologie radicale. Et quand je parle de mouvement social, c'est, par exemple, la Via Campesina, qui est un réseau de petits paysans paysannes qui touche 200 millions de personnes qui sont revendiquées. Touche 200 millions de personnes qui se revendiquent de l'agroécologie. Du coup, c'est quelque chose qui est aussi hautement politisé. Pour finir le chapitre, on va donner plein de pistes sur des pratiques, des techniques agricoles qu'on a trouvées utiles et que là, je ne vais vraiment pas détailler. Bien sûr, on parle du compost, ce qui est un peu une des bases du maintien des fertilités des sols, surtout quand on n'utilise pas les engrais de synthèse. Après, on parle d'utilisation d'engrais verts, c'est-à-dire le fait d'utiliser des plantes pour maintenir la fertilité des sols, des plantes qu'on ne va pas consommer, mais qui sont uniquement destinées au maintien de la fertilité. On va aussi parler de la rotation des cultures, c'est-à-dire le fait de ne pas faire de monoculture, c'est-à-dire de ne pas planter chaque année les mêmes plantes au même endroit. Quelque chose de dominant dans l'agriculture industrielle et qui est catastrophique pour l'écosystème, l'agro-écosystème. On continue en parlant de culture associée et d'agroforesterie, c'est-à-dire le fait de... En lien aussi avec l'alimentation, on a besoin d'une alimentation végétale diversifiée, et du coup, cette diversité-là, elle va se retrouver dans nos champs, dans nos jardins. Et ça fait du sens, et de manière diététique, et de manière agronomique. On parle ensuite de manière un peu comme un gros pack de non-labour, c'est-à-dire de ne pas labourer, de semi-direct, c'est-à-dire de semer les graines sans retourner à terre, et de culture sur but, qui sont des techniques qui sont un peu en plein essor et qui sont très très intéressantes quand on remet en question les cultures sur but, c'est le fait de cultiver sur des bandes de terre qu'on ne retourne pas et qu'on recouvre de matière organique. C'est un peu un cliché de la permaculture. Voilà, et du coup le non-labour, le semi-direct et les cultures sur but, c'est quelque chose de très intéressant quand on remet en question la mécanisation et l'utilisation de la force animale. Et pour finir le chapitre, on parle encore rapidement de la terra preta, qui est un sol très fertile, c'est une technique de production de sol fertile qui a été développée par des paysans et paysannes en Amazonie, qui pendant des centaines d'années ont réussi à créer des sols agricoles très fertiles sur un sol de la forêt amazonienne qui est un des sols les plus peu fertiles de la planète.
Et du coup, là on a fini la partie qui traite directement du texte et de son contenu. Et on voulait faire un dernier petit point sur l'état présent du texte et son futur. Donc la version qu'on vous a présentée, c'est une version qui est disponible en version brochure ici, on a quelques exemplaires
gratuit,
ouais, et aussi présent gratuitement sur le site infokiosque.net. Du coup là on peut télécharger des versions en PDF. C'est consultable même en ligne, mais cette version là c'est pas encore la version finale, parce que souvent quand on travaille sur un texte et qu'on fait des relectures et qu'on écoute des critiques de gens, etc., on a vite envie de rajouter des choses, et du coup il y a un chapitre qui est encore en rédaction, et puis des retouches qui vont être faites. Et ce chapitre, c'est un chapitre qui touche aux nuisibles, c'est-à-dire à l'ensemble d'animaux, d'insectes, de mammifères, etc., qui rentrent en concurrence avec les humains dans le cadre de l'agriculture. Et ça, c'est un thème qu'on a pas du tout, ou presque pas abordé dans cette version de la brochure, et c'est vraiment quelque chose qui manque, et du coup on est en train de l'écrire, et c'est pas évident, mais on avance. Et sinon on est aussi en recherche d'une maison d'édition, donc pas pour devenir riche en vendant notre texte, on n'a pas envie et on ne se fait pas d'illusions. on aimerait profiter en fait des connaissances en imprimerie et surtout du pouvoir de diffusion d'une maison d'édition, parce que c'est du travail qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et du coup, c'est un choix qu'on a fait d'essayer de se tourner vers ça. Et pour l'instant, on n'en a pas encore trouvé. Et du coup, si vous avez des connaissances ou si vous êtes éditrice, éditeur vous-même, n'hésitez pas à nous contacter.
Les éditions libres peut-être. Vous l'aurez déjà rencontré ?
C'était pas. Qu'il est trop proche.
Ok.
Voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les transmettre ou même à les écrire.
C'est jardin sans cage à 13h. C'est sur le. Au début.
Et finalement, on a aussi une traduction en allemand du texte. Donc, elle est bientôt finie. C'est des personnes super qui nous ont aidés, enfin qui ont fait cette traduction en fait. Et du coup, ils attendent qu'on ait fini la rédaction et qu'il y ait quelques relectures pour corriger. Et cette version, du coup, on espère qu'elle sera bientôt disponible. Et si il y a des personnes qui sont motivées à traduire dans d'autres langues, etc. Ben, c'est super. C'est volontiers. Et voilà. On a fini la présentation.